Bonjour à tous. Bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. C'est une joie pour moi ce matin de pouvoir parler d'un sujet qui me touche, qui me tient à cœur, parce que dans mon ministère pastoral, j'ai souvent été amené et souvent été confronté à des problèmes, et le pardon, c'est quelque chose d'important dans la vie. Et il peut nous sembler que, a priori, avec le pardon, tout semble facile, parce que le pardon, il faut le dire, c'est l'une des attitudes les plus nobles et les plus célébrées. Et de plus, pour nous, chrétiens, le pardon a une profondeur spirituelle infinie, puisqu'il s'enracine, je dirais, dans l'être même de Dieu. Car s'il y a une chose que nous ne devons jamais oublier en tant que chrétiens, c'est que Dieu est pardon. Et le pardon, enfin, quand on y réfléchit, ne fait que des gagnants, puisqu'il libère la victime et qu'il libère l'offenseur. Le pardon n'a donc que des mérites et que des bienfaits. Pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il nous pose question et qu'il pose des questions. Et je vais commencer par les plus simples. Tout est-il pardonnable ? Le pardon est-il sans condition ? Est-il possible de pardonner à la place de la victime ? Et si oui, n'est-ce pas alors un fardeau supplémentaire ? Alors, vous le savez, je pense, des philosophes, des moralistes ont débattu longuement et souvent très intelligemment sur toutes ces questions. Et pourtant, à la lumière de la Bible, je pense qu'il est possible d'y répondre simplement, et je pense, pour dire la vérité, que la difficulté pour moi se trouve ailleurs. Pour commencer, et pour que les choses soient bien claires, mais je vais expliquer pourquoi, je dirais que pour moi, alors je dis bien pour moi, j'explique bien, pour moi, tout, je le crois, est pardonnable. Je crois que tout est pardonnable. Car les fautes que j'ai commises, les souffrances que j'ai endurées, ce pardon est non seulement important, mais il est vital. Et je dirais deuxièmement que je crois aussi que le pardon doit être sans condition. Ça veut dire que je peux pardonner sans rien exiger en échange. Bien entendu, il est évident qu'il m'est toujours plus facile de le faire si l'offenseur répare sa faute, s'il s'excuse, ou tout au moins s'il reconnaît ce qui s'est passé. Mais ce qui est clair, c'est que je peux pardonner même celui qui ne reconnaît rien, qui ne s'excuse pas et qui ne mérite rien. Je peux même pardonner à quelqu'un qui n'est plus là. Par contre, ce qui me semble à moi évident, c'est que je ne peux pas pardonner à la place de la victime. Prenons un exemple. Dans la Bible, Dieu prive Job de ce qui lui était le plus cher. Sa femme, ses enfants, sa santé, ses biens matériels. à la fin du livre, Dieu rétablit Job dans sa santé et dans sa richesse. Mais il ne lui rend évidemment pas sa femme, ni ses enfants. Pourtant, Job loue Dieu. Et selon l'écrivain Elie Wiesel, qui s'inspire du message du prophète Job, Elie Wiesel dit que Job a eu tort. Elie Wiesel dit ceci: Job aurait dû dire, soit je te pardonne. Je te pardonne dans la mesure où il s'agit de moi, de mon chagrin, de mon agonie. Mais mes enfants, ma femme qui est morte, est-ce que eux te pardonnent? Ai-je droit de me prononcer en leur nom? Et ça me semble intéressant, dans la mesure où l'on peut constater qu'on ne peut pardonner que ce qu'on a personnellement subi. Essayons d'y voir plus clair. Qu'est-ce que pardonner? Alors, pardonner, on va le voir le slide ici, c'est tenir une offense pour non avenue, renoncer à tirer vengeance. Voici 5 étapes claires qui décrivent la démarche à faire pour pardonner vraiment lorsque l'on nous a fait du mal. 5 étapes. La première étape, et elle est importante, c'est de reconnaître qu'on a été blessé. Lorsque l'on souffre, on a parfois tendance à vouloir très vite oublier la souffrance en enfouissant notre blessure. Pourtant, celle-ci, comme un abcès non traité, continue en réalité à nous faire du mal de l'intérieur. Et pour guérir, il faut, comme un chirurgien, entrer en contact avec sa blessure intérieure. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a des mécanismes de défense qui nous empêchent de vouloir trop souffrir. On a peur aussi de rencontrer notre colère. On fait toutes sortes de manœuvres pour ne pas entrer en contact avec nos émotions. Et certaines personnes, voulant bien faire, ont aussi tendance à vouloir pardonner à l'autre trop rapidement. À mon avis, beaucoup trop rapidement. Beaucoup de gens ou trop de gens pardonnent intellectuellement trop vite. En trouvant des excuses à l'autre. Et ce faisant, ils gardent leurs blessures. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté ce qui s'est passé à l'intérieur d'eux-mêmes, au niveau émotionnel. Mais s'il n'y a pas une écoute et une reconnaissance des différentes émotions, douleur, tristesse, colère, frustration, on ne guérira jamais. Pardonner à celui qui nous a offensés demande beaucoup de courage. La deuxième étape, c'est de prendre la bonne décision. Le pardon ne vient jamais tout seul. Il faut décider de ne pas prendre le chemin de la violence. Il faut décider de ne pas prendre le chemin du ressentiment. Tout simplement parce que ces deux chemins-là sont des chemins désastreux. Ce sont des chemins désastreux du non-pardon. Et nous allons voir tout à l'heure ce que le non-pardon entraîne. Prendre ces deux chemins, c'est prendre un chemin de mort. Mort pour nous-mêmes, mort qui se propagera dans nos relations. Il faut, au contraire, choisir le chemin de la vie. La personne qui s'engage sur la voie du pardon, même si c'est coûteux, même si cela fait mal, et même si c'est long, voit juste. Il est aussi très important d'essayer, dans la mesure de nos possibilités, de faire cesser l'offense. Le pardon, c'est quelque chose de difficile et ne tient pas longtemps tant qu'une personne perpétue son offrande sur nous. Il faut donc, et c'est important, faire cesser l'offrande, l'offense. Il faut décider de demander à la personne d'arrêter de nous blesser. Cela demande du courage. Parfois, nous cachons notre manque de courage derrière la belle façade d'un pardon qui est comme cela donné gratuitement. Et ce faisant, on étouffe en fait nos sentiments parce que cela nous est plus confortable. Mais la vérité est qu'on ne peut réellement pardonner dans les conditions d'une offense continuelle. Il est impossible de pardonner si l'offense ne cesse pas. Pour pardonner, il faut que l'offense cesse. Et c'est la raison pour laquelle il est très très important de faire savoir qu'on est blessé. De faire savoir à la personne qu'elle nous a blessés. Attention, faire savoir qu'on est blessé ne veut pas dire se mettre en colère contre l'autre. Faire savoir à l'autre qu'il nous a blessés, ce n'est pas lui rentrer dedans, si j'ose dire vulgairement. La troisième étape, et vous l'aurez compris, c'est de dire sa souffrance. Il faut, et c'est important, extérioriser sa douleur pour pouvoir la gérer. Si nous n'extériorisons pas notre douleur, nous serons incapables de la gérer. Nous serons incapables de la guérir. Alors, attention, il ne s'agit pas ici de parler autour de nous pour dire du mal de l'autre. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas non plus d'éclater à la figure de celui qui nous a fait mal. On décide de ne pas se venger. Et ça nous appartient. C'est nous, c'est toi, c'est moi qui décide de ne pas me venger. Oui, elle m'a fait mal, mais je prends la décision de ne pas me venger. À ce moment-là, deux voies s'offrent à nous. La première offre, la première voie, c'est d'écrire dans un cahier. D'écrire dans un cahier ce qui s'est passé, ce qui me fait mal, ce que j'ai sur le cœur. La deuxième voie, c'est d'en parler à quelqu'un de confiance. Je dis bien à quelqu'un de confiance. Je ne dis pas d'en parler à n'importe qui. Je dis ici d'en parler avec quelqu'un de confiance. Pourquoi ? Tout simplement parce que écrire permet de décharger sur le papier toute ma violence. Toute la violence que la blessure peut avoir causée en moi, sans que cette violence ait de conséquences néfastes. Et je vous renvoie ici, je le ferai tout à l'heure, mais je le dis ici pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie ici au livre de Samuel Hatzagorian, « Le pardon, une puissance qui libère », car Samuel Hatzagorian, dans son livre, explique très bien ce fait, et il explique pourquoi écrire tout ce que l'on a sur le cœur est si important. Seul le cahier saura ce qui est sorti de nous, dit Samuel Hatzagorian. Par contre, Lita Bassett, qui a écrit Le pardon originel, un livre dont je parlerai tout à l'heure, dit très bien dans son livre que lorsque l'on se confie à quelqu'un, il s'agit ici de parler de notre souffrance et de décrire des faits. Décrire des faits, ce n'est pas interpréter les intentions. Attention de ne pas mélanger les deux. Il faut aussi, et c'est important, trouver une personne assez mûre pour écouter nos doléances, sans que cette personne en vienne à mépriser celui qui nous a fait mal, sans que cette personne aille répandre partout la nouvelle. Et vous savez tous aussi bien que moi comment ça se passe. Lorsque j'étais directeur de camp avec mon épouse, nous aimions bien jouer à un jeu très simple qui s'appelle le téléphone arabe. Vous connaissez ce jeu ? Il suffit simplement de mettre le groupe en cercle et vous dites une phrase dans l'oreille de la personne de droite qui répète à sa personne de droite la même phrase. Et c'est assez intéressant parce que quand la phrase vous revient dans l'oreille gauche, c'est plus du tout ce que vous avez dit dans l'oreille droite. Et ça nous montre à quel point nous aimons bien déformer les choses. Ma femme dit toujours, et je l'en remercie, que j'exagère toujours un peu. Alors c'est vrai que parfois, j'exagère un peu sur les chiffres. Mais nous avons tous cette tendance d'exagérer les choses. Et s'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, frères et sœurs, c'est dire votre souffrance à quelqu'un qui ne saura pas garder cela pour elle. Et qui répandra dans l'Église ou ailleurs ce qui s'est passé. Enfin, une chose toute bête, mais qui peut vous aider, parce que ça m'a aidé dans ces moments de souffrance, c'est de faire du sport. C'est de se défouler. Quand j'étais étudiant en théologie et que j'avais jugé que j'avais pas eu une bonne note parce que le prof m'avait zappé, évidemment c'était le prof, c'était pas moi, hein. Moi, j'étais parfait, je connaissais bien mon cours. Comme je ne pouvais pas lui dire ce que je pensais, parce que j'osais pas, et Joël s'en souvient, je prenais la direction de la forêt, et là, je me choisissais un arbre, et je tapais dedans, jusqu'à ce que j'en puisse plus. J'en ai marre. Et une fois défoulé, j'en pouvais plus. Mais j'étais super bien, parce que je m'étais défoulé. Et un des moyens, pour que ça sorte, c'est de faire du sport, c'est de se défouler sainement. Parce qu'il y a un moment où on a ce qu'on appelle un trop-plein d'émotions. Et si ce trop-plein d'émotions ne sort pas, psychologiquement, cela va jouer sur ma santé. Et nous le verrons dans quelques instants. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite, parce que je m'aperçois que je prends beaucoup de temps là. Quatrième point, c'est de recevoir la guérison. Dans son livre « La joie imprenable », Lita Basset dit que le pardon total n'est pas possible si notre être intérieur n'a pas été guéri. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Je ne peux pas accorder mon pardon si intérieurement je suis encore malade. Écrire ou parler à quelqu'un permet d'y voir clair, en nous identifiant à ce qui a été touché dans notre vie. Alors, faire cela, c'est évidemment pas, je dirais, jouer à la victime, en se lamentant sur soi-même, d'une façon générale. Pourquoi c'est toujours moi ? Hein ? On est 100, il y en a un qui a le problème, c'est moi. Et on aime bien jouer à la victime. Mais c'est important de savoir exactement ce qu'on a perdu par rapport à nous et également par rapport à l'autre. Je répète parce que c'est important. Il est important de savoir exactement ce que l'on a perdu par rapport à nous et également par rapport à l'autre. Dans tout pardon, il y a un deuil à faire. Par rapport aux attentes que l'on avait vis-à-vis de ce quelqu'un qui nous a fait du mal, par rapport à la confiance qu'on a perdue, par rapport à l'amour que l'on n'a pas reçu, ce ou ces deuils sont des lâcher-prises qu'il faut absolument faire. Quand on peut repérer ce qui a été touché en nous, on s'apercevra en faisant cela que notre agressivité commence petit à petit à fondre. Notre agressivité commence petit à petit à fondre parce qu'on touche à la racine de la douleur et que précisément on commence à la soigner. Et les mots mis dessus, allez savoir pourquoi, mais c'est comme cela, ont un pouvoir thérapeutique, car nous avons heureusement en nous une capacité intérieure réparatrice. C'est pourquoi les psychiatres peuvent nous aider à ce niveau. La cinquième étape, c'est de s'ouvrir au don du pardon. Philippe, c'est possible d'éteindre les deux spots, là, parce que... Merci beaucoup. Non seulement il y a le stress, mais en plus, il y a la chaleur. La cinquième étape, c'est de s'ouvrir au don du pardon. Une fois que la guérison est enclenchée, on peut dire « Mon cœur, maintenant, est prêt à recevoir le don du pardon ». En effet, on ne pardonne pas aux autres. Je répète, on ne pardonne pas aux autres. On se laisse prendre par le pardon. Et j'espère que vous voyez la différence. On se laisse prendre par le pardon. Mais on ne pardonne pas. Pourquoi ? On va le voir tout à l'heure. Le pardon ne nous appartient pas et ne nous appartiendra jamais. Croire qu'on a le pouvoir en nous de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés, c'est faire naître en nous un sentiment de supériorité. Et le pardon, frères et sœurs, pardonnez-moi de vous le rappeler, ce n'est pas une vertu morale. C'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. Mais on doit être disposé à le recevoir. Et on doit être disposé à le pratiquer. Pour le croyant, c'est ici qu'intervient Dieu. Car nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu est la source du pardon. C'est ça que la Bible nous dit. C'est Dieu qui nous inspire. C'est lui qui nous en rend capables, même si on ne croit pas en lui. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on ne donne pas le pardon, mais qu'on le reçoit. Lorsqu'on a une relation d'intimité avec Dieu, il n'y a pas, à mon avis, de plus doux ami qui sache mieux écouter, qui sache mieux recevoir notre douleur et qui sache mieux nous en décharger. Aussi, quand la blessure est trop profonde ou quand la blessure est trop ancienne, quand notre moi intérieur n'a plus de force pour réparer des dégâts, il y a alors besoin d'une intervention extérieure. Et c'est là qu'intervient le Dieu d'amour. Écoutez cette parole de Jésus. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Le Seigneur m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Écoutez, si vous le voulez encore, cette autre parole de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le vrai pardon du moteur, c'est de savoir aimer profondément, inconditionnellement. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne dit pas dans sa parole « Je t'aime à partir du moment où tu ». Dieu dit « Je t'aime ». Et le problème vient du fait que nous, nous aimons sous condition. Je t'aime si tu m'achètes mon jouet préféré. Je t'aime si, pour la fête des pères, bonne fête à tous les papas, tu n'oublies pas de me payer le iPhone 5. Ce serait sympa. Si vous vous sentez aimé, profondément aimé, vous êtes capable de guérir et de pardonner pleinement. Aviez-vous déjà pensé qu'en venant à Dieu, il pouvait vous conduire? Il pourrait vous aider à faire ce chemin de libération de vie qu'est le pardon. Maintenant, une question demeure et il faut y répondre. Après le pardon, que faire de la relation avec l'offenseur? Qu'est-ce que je fais avec la personne qui m'a offensé? Là, je dirais, on a le choix. On se réconcilie avec la personne ou on ne se réconcilie pas avec la personne. Et là, je vais vous étonner. Mais ça n'est pas obligé, et on va le voir tout à l'heure, dans ce que le pardon n'est pas. Si je décide de me réconcilier avec la personne, il faut que je sache une chose. Cette chose-là, je dois la savoir. Si je ne la sais pas, automatiquement, on revient au début. Et je ne lui pardonnerai pas. Je dois savoir que si je me réconcilie avec la personne, ma relation avec elle ne sera plus jamais comme avant. C'est impossible. Et ne me dites pas le contraire. Parce que là, je vous sors des preuves et je vous garde jusqu'à midi et demi. Lorsqu'il y a eu une blessure entre deux personnes, le seul chemin positif, c'est l'approfondissement de l'amour entre ces deux personnes. Décider d'un commun accord, quand on peut souffrir ensemble, accepter cette souffrance-là, il y a une sorte d'approfondissement. Un amour qui n'a pas souffert, c'est un amour qui manque de profondeur. Un amour qui n'a jamais souffert, c'est un amour qui manque de profondeur. C'est pas de moi. C'est de Jacques Ducol, dans son livre, que je recommande et dont je parlerai tout à l'heure. Prenons un exemple. Prenons un couple. Un couple, en principe, normalement, ça se chamaille. S'il existe parmi nous un couple qui ne s'est jamais chamaillé, ça ne les intéresse pas, vous pouvez sortir et commencer à prendre votre pas. J'en conclus donc que vous êtes des couples normaux. Et c'est intéressant. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison qu'il est évident que dans un couple, les choses ne marchent pas toujours comme elles devraient marcher. Le meilleur moyen d'user un couple, c'est de ne jamais se disputer. J'en conclus donc que se disputer, c'est logique. Un amour qui n'a pas souffert, c'est un amour qui manque de profondeur. Mais un tel chemin d'amour n'est pas toujours possible. Dans certaines situations, il est même préférable qu'il n'y ait jamais de réconciliation. Je répète, parce que c'est important. Dans certaines situations, il est même préférable qu'il n'y ait jamais de réconciliation. Si la personne décide de ne pas changer, si la personne a décidé qu'elle n'avait pas tort et que tous les torts, c'est lui. Tous les torts, c'est elle. Moi, j'y suis pour rien. Eh bien, moi, je dis que dans ces cas-là, vaut mieux ne pas rechercher la réconciliation. Parce qu'on a affaire, pardonnez-moi de le dire crûment, à un abruti. Ou une abrutie. Si la personne ne veut pas changer, si elle peut continuer à nous agresser, si elle peut continuer à nous faire du mal, nous vivrons toujours avec ce mal. Et je suis désolé de le rappeler, parce que je sais que vous le savez, l'esprit, notre esprit est tortueux. Et il y a des gens qui sont capables de faire du mal rien que pour jouir un bon moment, rien que pour se réjouir. Avez-vous lu le livre de Hans Müller qui dit « J'étais... » le titre c'est « J'étais bourreau à Auschwitz ». Et Hans Müller était un des lieutenants à Auschwitz et il s'est converti. C'est intéressant de noter qu'il a, au passage, pour ceux qui sauront de quoi je parle, rencontré Corrie ten Boom, qui était à Ravensbrück, mais il était à Ravensbrück avant et après il est parti à Auschwitz. Et il dit lui-même dans son livre, « Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je jouissais quand je voyais des gens souffrir devant moi. » Il y a des gens qui aiment voir souffrir les autres. C'est la raison pour laquelle j'en viens à un point qui est très important. Je le dis, je le répète, et je suis prêt à défendre ma position devant quiconque me demande raison. Le pardon ne sera jamais l'oubli. Je sais qu'il existe des bien-pensants qui vous diront « pardonner, c'est oublier ». Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Le pardon n'est pas l'oubli. Demandez à Corrie ten Boom, qui a vécu les camps de la mort, qui a vu son grand-père mourir, qui a vu sa sœur mourir, qui a vu toute sa famille passer dans les fours crématoires, d'oublier, c'est impossible. Pardonner n'est pas l'oubli. Souvent, des gens disent « Allez, trace un trait, tourne la page. Dans peu de temps, tu t'en souviendras même plus. » C'est un peu comme la personne qui vient de perdre un bien-aimé, qui cherche à vous faire du bien, mais qui au contraire vous fait du mal, qui vous prend dans ses bras et qui vous dit « Allez, t'en fais pas. Comment ça, je viens de perdre un bien-aimé, tu me dis, t'en fais pas. C'est pas grave. Les professionnels de la psychothérapie savent très bien combien on n'oublie jamais. Et je vais vous dire pourquoi, très rapidement. Les blessures dites oubliées ont été enfouies quelque part dans notre inconscient. Et elles continuent de travailler dans notre inconscient. Et là, on touche, pour ceux qui étaient là à ma conférence, à la psychopolémologie, c'est-à-dire au lavage de cerveau. Et c'est un effet désastreux, comme l'effet de ne pas pardonner à celui qui nous a offensés est désastreux. Et nous allons le voir dans peu de temps. On est donc obligé de les faire émerger à nouveau. On est obligé de les faire émerger à nouveau pour être capable de les traiter. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire cicatriser. C'est pas pareil. On pourra se souvenir de l'événement comme on se souvient d'une cicatrice, mais on n'aura plus de ressentiment intérieur. Une cicatrice, ça se voit, mais une cicatrice, ça ne fait plus de mal. C'est ce qui arrive lorsqu'on pardonne. On ne souffre plus. Donc, premier point, le pardon ne sera jamais l'oubli. Deuxième point, le pardon ne signifie pas et ne signifiera jamais s'excuser. Quelqu'un qui nous a offensés, qui vient vers nous et qui nous dit « Oh, excuse-moi, je suis désolé, je crie un peu fort. Je vais donc essayer de parler plus posément pour permettre à bébé de dormir. Vous m'entendez, ça va? Si je fais comme ça? Pardon. » Donc le pardon ne signifiera jamais s'excuser. Excuser veut dire qu'on ne tient pas l'offenseur pour responsable de ses actes. Et donc on a tendance à lui trouver des circonstances atténuantes. On explique son geste, ou on explique ses paroles, par la connaissance que l'on a de sa vie. Et c'est un grand problème. Parce qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. Si vous écoutez les infos, la première chose qu'ils vous diront, c'est « Oui, il a tué, oui, il a violé, mais il a été violé dans son enfance. C'est pas de sa faute. » Et le problème est là. C'est parce qu'on a tendance, précisément, à lui trouver des circonstances atténuantes. Et donc, on va expliquer son geste ou ses paroles par la connaissance qu'on a de sa vie. Et donc, en faisant cela, c'est important... Et c'est dramatique parce qu'on minimise ses actes. On minimise ses paroles. Bref, vous aurez compris, ce qu'on fait, c'est qu'on le protège. On nie le mal qu'il a fait. Mais une faute n'est pas excusable. Une faute n'est pas excusable, quand bien même on peut l'expliquer. Une faute nécessitera toujours le pardon. Souvenez-vous, je fais appel à votre mémoire, souvenez-vous lorsque Dieu se présente à Moïse. Il se présente comme le miséricordieux, celui qui pardonne, mais qui ne tiendra jamais le coupable pour innocent. Vous vous rappelez de ça? Et c'est important. Troisièmement, le pardon, et je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas synonyme de réconciliation. On en arrive maintenant. Encore une fausse idée. Qu'est-ce qui établit et maintient une relation? Ce qui maintient et qui établit une bonne relation, c'est la confiance mutuelle. C'est la confiance mutuelle. Si je n'ai plus confiance en la personne, je ne peux plus travailler avec elle, je ne peux plus lui offrir mon amitié. Si la confiance est trahie, elle ne peut revenir par simple décision de la volonté. Parce que la confiance, mes amis, ça se gagne. La confiance, ça se mérite. La confiance, ça se construit. En l'occurrence, quand on perd la confiance de quelqu'un, il est toujours possible d'essayer de la reconstruire. Mais c'est très long. Et le temps me manque ici pour l'expliquer.